Pour... Alors celui qui a essayé aussi, c'était Sartre sur son bidon à Billancourt, là, l'image est restée.
Alors ça, c'était Sartre à l'époque, était plutôt de sensibilité ou flirté avec avec les Mao et avec et notamment d'ailleurs avec son qui est pas son directeur de conscience, Benny Lévy à l'époque, dit Victor. Oui, mais alors ça, c'est une figure récurrente finalement de l'intellectuel en France. Qui ne me paraît pas dérisoire, par ailleurs, au contraire, mais oui, c'était le philosophe perché sur son tonneau, parlé sous les murs de Billancourt, et puis bien des années plus tard, en 95, Bourdieu, à la gare de Lyon, etc. Alors, ça marque à la fois un mouvement de grandes figures intellectuelles vers le mouvement ouvrier, et en même temps le fait que l'accueil qui leur était réservé, pas pour Bourdieu, parce qu'on est déjà sorti de cette période-là, étaient les intellectuels, oui, mais en gros, d'abord, toujours suspect d'une possible trahison sociale, la grande figure qui exprime cette hantise...
Une suspicion fondée.
Malheureusement, certains l'ont confirmé, mais la grande figure littéraire qui vit dans la hantise de la trahison, c'est Nizan. C'est les romans de Nizan, La Conspiration, Antoine Bloyer. Il est complètement hanté par cette menace de trahison de classe, à l'époque, on aurait dit. Bon, et évidemment, là je le prends y compris comme cas personnel, j'ai quitté sans regret le Parti communiste où j'en ai été exclu sans regret, mais ce qui me peinait, c'était aux yeux de ces ouvriers du comptoir, le fait de passer pour, ça y est, hein, le fils machin fait des études, il passe de l'autre côté.
Il est fier.
Oui, il devient fier. Bon, ça c'était quelque chose de douloureux. Mais l'accueil fait aux intellectuels était toujours un accueil en suspicion et les mettant en situation de devoir faire en permanence leur preuve de fidélité. D'où... cette position assez ambiguë des intellectuels communistes dont le prototype est Aragon, dont un auteur qui m'est cher, Dionis Mascolo, disait que finalement il était resté un sympathisant de l'intérieur, mais sans cesse tenu de prouver, d'où, enfin c'est un texte un peu connu, mais cette brochure impitoyable sur Aragon de Jean Malaquais, qui est Aragon ou l'intelligence servile, mais c'est vrai qu'il a servi bien des causes, les meilleures et les pires.
Mais c'est bon. Un mot qui revient souvent sous ta plume, ça, quand on lit tes papiers, tes intelligences serviles. Ça, c'est une hantise que tu as.
Ah oui, oui, bah, quelle que soit d'ailleurs la servilité, mais qu'on mette ses idées à la disposition d'une autorité ou d'une maîtrise, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit aujourd'hui dans le cas de l'ancien disciple de Foucault qui est devenu l'idéologue organique du MEDEF, ou que ce soit d'ailleurs une soumission à l'orthodoxie du parti. Je crois que... Alors si on a réussi, si on a réussi quelque chose, c'est pas du tout d'avoir créé un grand parti. Bon, on a essayé de faire de notre mieux, mais... Je crois que ça, c'est quelque chose d'important, pas de visible, d'avoir réussi à créer un mouvement, une organisation politique dans lequel il y a bien des affinités, mais il n'y a pas une orthodoxie de pensée. On n'a jamais d'ailleurs été sartrien contre Althusser, althussérien contre Lefebvre, etc. Peut-être éclectique, mais tout ça faisait partie d'un patrimoine... d'un paysage, finalement, c'est le terme que j'emploie dans l'introduction du bouquin, mais c'est un paysage de pensée qui reste assez divers, et je crois qu'il n'est pas quelque chose de personnel. Une culture d'un certain pluralisme qui, en même temps, n'est pas incompatible avec un engagement énergique. Hein. Ça, c'est un peu mon défi. Est-ce qu'une politique profane ou laïque est possible ? Ça se traduit par est-ce qu'il est possible de s'engager à fond, de mettre une énergie absolue à partir de convictions ou de certitudes relatives. C'est-à-dire on n'est pas sûr d'avoir raison, mais pourtant, bon, la politique est un combat, il faut y aller, quoi.